Calade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditrices et auditeurs de Calade ma radio, bonjour. Il est l'heure de retrouver votre émission Couleurs du monde du mois de mai. Et pour cette émission, on a choisi un sujet plus léger que nos derniers sujets, hein, qui étaient un petit peu lourds. On va parler du jeu de Go. Alors avant de vous dire ce que c'est, hein, je vais un petit peu vous dire avec qui on va faire cette émission. Donc déjà, nous sommes en compagnie de Patrick, qui a la lourde charge à la fois de maître de cérémonie et en plus de faire la technique aujourd'hui.
Salut Emma, salut les auditeurs. Patrick. Alors, on n'est pas tout seul quand même.
Eh ben non, on n'est pas tout seul.
Nous sommes en compagnie d'un certain Béranger. Bonjour Béranger.
Bonjour Patrick, bonjour les auditeurs et les auditrices.
Il était passé de par chez nous, et il avait participé à une chronique littéraire en compagnie d'Emma sur le fameux roman d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent.
Tout à fait.
Donc belle chronique. Mais je pense qu'il est peut-être, il a peut-être d'autres compétences qui justifient qu'il vienne parler du fameux jeu de Go.
Tout à fait. Tu peux nous dire quelles compétences tu as Béranger ?
Alors du coup, le jeu de Go, c'est un jeu que je pratique depuis quelques années maintenant. Ça va faire, on va dire, 6-7 ans et notamment... depuis 2 ans, dans lequel je suis bien investi dans la communauté française de jeux de Go, puisque je suis président de la Ligue Rhône-Alpes de jeux de Go.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le jeu de Go, visuellement, ça ressemble à quoi ? Tu nous expliques ?
Alors,
il va l'expliquer.
Visuellement,
il va nous le dire.
Je vais vous l'expliquer, c'est prévu dans l'émission.
Ça vient d'où alors ?
Mais on va te dire tout ça. Mais
vous maintenez le suspense, mais les auditeurs qui n'y connaissent rien disent « Mais c'est quoi ce truc ?»
Vous allez voir, mais pour ça, il faut bien écouter toute l'émission.
Je suis impatient, je suis comme les Padawans, je suis impatient.
Alors du coup, dans cette émission, en première partie justement, on va vous présenter le jeu, on va tout vous dire, on va vous dire aussi d'où ça vient. Dans une deuxième partie, on va parler un petit peu de l'impact culturel en Asie et de toutes les histoires autour du jeu de Go, notamment en Chine et au Japon. Alors, j'ai un petit peu
Sherlock.
Spoilé, j'avoue.
J'enquête.
Et puis en troisième partie, on parlera du jeu de Go en Europe. Et pour finir, on aura une quatrième partie avec un pédagogue que on connaît bien, qui s'appelle Isoka, et dont on diffusera l'interview.
C'est un nom asiatique, ça.
ouais, mais c'est un pseudo.
D'accord. On y va ?
On y va.
Les couleurs du monde.
C'est parti, on y va.
Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le jeu de Go, justement, comme tu as dit, Patrick ? Alors, le jeu de Go, c'est un jeu de stratégie qui est originaire d'Asie, qui se joue à deux sur un plateau en bois que l'on nomme Goban. C'est un plateau qui est quadrillé par 19 lignes horizontales et 19 lignes verticales, permettant de former 361 intersections.
Un super damier, quoi.
C'est un espèce de gros damier. Mais du coup, justement, je vous parle des intersections et pas des cases, parce que ça se joue sur les intersections.
Ça ne se joue pas dans la case, contrairement à un jeu de dames, par exemple.
Exactement.
D'accord.
On va déplacer des pions que l'on nomme des pierres, donc noires ou blanches, sur les intersections disponibles. Mmh. Donc l'intersection qui n'est pas déjà occupée par une pierre adverse.
D'accord.
Alors, ces pierres, ces pions, si on les appelle des pierres, justement, c'est parce qu'elles ressemblent très fortement à des cailloux. C'est des petits objets ronds, biconvexes, donc, c'est-à-dire bombés de chaque côté, un peu comme une goutte de rosée sur une feuille, on va dire, d'environ 2 cm de diamètre pour un peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Donc c'est quand même assez... c'est pas très gros. Et en plus, les pierres, elles ne se déplacent pas. C'est des pierres.
C'est-à-dire
qu'une fois qu'on a joué une pierre, elle ne va pas bouger jusqu'à la fin de la partie.
Donc je pense qu'historiquement, c'était des pierres. C'est pour ça qu'on l'appelle... On appelle toujours ça des pierres, maintenant ?
On appelle ça des pierres.
On appelle toujours ça des pierres de Go, tout
d'accord.
À fait.
D'accord.
Et donc ces pierres, en fait, elles vont rester sur le plateau, sauf si elles sont capturées. Pour ça, il faut entourer intégralement une pierre adverse.
Ok, ouais. Donc une fois qu'une pierre est entourée, elle est capturée, et il se passe quoi ?
Elle est enlevée du plateau.
On l'enlève, d'accord, voilà. Très bien.
Mais du coup, c'est quoi le but du jeu ? Parce que c'est bien beau de mettre des cailloux sur une planche en bois, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça?
Bah, c'est d'occuper tout l'espace, je présume.
Le but, c'est d'occuper pas tout l'espace, mais le plus d'espace possible.
D'accord.
On va essayer de contrôler du territoire. Donc, du coup, par l'alternance de coups qu'il va y avoir entre noir et blanc, notre gobane il va se remplir de pierres petit à petit.
D'accord.
Et ces pierres, elles vont venir former comme des frontières à un territoire, un peu comme des barrières qui viendront autour du jardin. Mmh. Et le gagnant de la partie est celui qui, à la fin de la partie, se retrouve avec le plus grand jardin.
D'accord.
Donc c'est un jeu qui va vraiment être sur les zones et sur les frontières.
Logique un peu territoriale, un peu comme si on était des généraux avec une carte et puis on essaie d'occuper l'espace avec nos armées qui vont
Précisément,
c'est très exactement ça.
Tu viens de toucher du doigt un truc dont on parlera après.
Voilà. Et du coup, pour résumer très simplement le jeu de Go, c'est à tour de rôle deux joueurs qui mettent des pierres sur un plateau quadrillé pour faire plus de territoire.
D'accord.
Alors, concernant l'origine de ce jeu, ce jeu, il est apparu en Chine. Alors, il serait apparu il y a environ 3000 ans. Il s'est propagé ensuite en Asie, en particulier en Corée dès le 2e siècle, au Japon au 6e siècle. Il est arrivé en Europe plus tard, à la fin du 19e siècle. Il a été principalement introduit par Oscar Korschel, qui est un Allemand qui avait passé plusieurs années au Japon. Et du coup, comme il venait du Japon, cet Allemand, en Europe, on a gardé le nom de Go, qui signifie pierre en japonais. C'est ce nom-là qu'on a adopté. Le nom chinois, c'est Weiqi, qui veut dire le jeu de l'encerclement. Alors, il y a une légende qui dit que ce jeu, il aurait été inventé par un empereur chinois, l'empereur Yao, pour apprendre à son fils Danzu l'art de gouverner. Mmh. Et voilà ce qui est dit. Alors, je m'appuie sur le livre de Dai Junfu, qui s'appelle « L'esprit du Go ». Hein, et sur toute cette partie-là, je me suis beaucoup appuyée sur ce livre. Et il dit au sujet de cet empereur, « Cela advint fort simplement. Un jour que Yao donnait sa leçon à son fils, il grava sur une surface plate un carré avec des intersections. Puis il donna à Danzu des cailloux de différentes couleurs pour que ce dernier manipule ce qui n'était alors qu'un jouet. Mm-hmm. Danzu, fasciné, se prit de passion pour celui-ci et le célèbre jeu de Go dit Weiqi était né. » Alors, ça c'est une des légendes. Hein.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ce que dit aussi Dai Junfu dans ce livre, c'est que finalement il s'agit au jeu de Go d'appréhender des situations complexes et d'apprendre comment les aborder en élaborant différentes stratégies. Et l'idée, c'est justement de moduler en permanence ces stratégies en fonction de la réponse de l'adversaire. Ça enseigne l'adaptabilité.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au Go, on apprend à envisager beaucoup de situations possibles. On apprend aussi à réagir si ça ne se passe pas comme prévu.
Ce qui est
quand même assez souvent le cas.
Ce qui est le cas le plus fréquent.
C'est le cas le plus fréquent. Et du coup, tout au long du jeu, il faut adapter ces stratégies, mais tout en essayant de garder comme la direction qu'on avait choisie au départ.
D'accord.
Du coup, on peut avouer que le lien avec l'art de gouverner, on le voit bien ici. Alors, il y a une autre légende qui date le jeu plutôt de la préhistoire chinoise, donc on est vers à peu près 1600 avant Jésus-Christ, qui viendrait du fait qu'on posait des cailloux sur un support pour simuler, pour préparer en fait des batailles contre les autres clans en
D'accord,
Chine.
Logique.
Voilà, et ça aurait donné ce jeu.
Ouais, tout à fait.
Alors, ce qui est intéressant dans le jeu de Go, c'est l'idéologie, à savoir qu'on va se partager le goban. En fait, on va se battre pour obtenir le plus grand territoire.
Ouais, d'accord.
Et l'idée, c'est qu'on va négocier, parce qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir tout le plateau. Et on peut se dire que c'est, si je continue de filer la métaphore, c'est vraiment une leçon de géopolitique que peut-être certains devraient se remettre en tête dans nos dirigeants actuels. Mmh. Petit clin d'œil à notre émission du mois de mars sur l'extrême droitisation du monde et 1984. Alors, si je reviens au Go et à Dai Junfu, dans l'esprit du Go, il fait un parallèle intéressant que je voudrais développer. C'est le parallèle entre la philosophie du Go et celle des échecs.
Bien sûr, ça vient immédiatement à l'esprit.
Tout à fait. Donc, alors, pour ça, il s'appuie lui-même, Dai Junfu, sur un livre de Henry Kissinger, qui s'appelle On China. Et ce politologue, il montre que l'organisation politique diplomatique de la Chine, elle peut être rapprochée du jeu de Go, tandis que celle des Européens, elle correspond plutôt au jeu d'échecs.
Ouais.
Parce qu'aux échecs, on a en quelque sorte deux armées qui sont des pions, des pièces qui se font face, qui ont chacun un rôle bien précis, un déplacement bien précis, et dont le but final, ça va être de tuer le roi, en tout cas, de le mettre en échec. Donc finalement, d'annihiler totalement
à minima, voire annihiler,
l'armée adverse.
Exactement.
Et la victoire, même si elle ait préparé plein de coups à l'avance, au final, elle avait déclaré sur le coup final qui est échec et mat.
Ouais, voilà.
Alors que Ogo,
dans une logique très frontale.
C'est ça, tout à fait. Ogo, la victoire, elle se construit vraiment petit à petit. Au fur et à mesure qu'on pose les pierres, les territoires vont se dessiner. Et un joueur ou une joueuse qui peut être en avance à un moment peut se retrouver en retard quelques coups plus loin. Et du coup,
c'est un work in progress, du coup.
C'est un petit peu ça, exactement. La différence fondamentale, c'est la suivante, et je cite à nouveau Dai Junfu. Il dit, au jeu d'échecs, les deux équipes sont ennemies. Elles jouent l'une contre l'autre.
Ouais, totalement.
Au jeu de Go, elles sont adversaires et se battent l'une avec l'autre.
Ouais,
il dit, cela paraît être une question de sémantique. Pourtant, tout l'esprit est là.
Ouais, totalement, totalement.
Et Béranger, il me semble que tu as une citation qui est tout à fait à propos là maintenant.
Alors, il y a une citation qui est à propos parce qu'elle vient d'un joueur d'échecs qui est plutôt connu, puisque c'était dans la personne d'Emmanuel Lasker, donc un champion du monde d'échecs.
D'accord.
Qui a déclaré « Les règles du Go sont si élégantes, organiques et rigoureusement logiques que s'il existe quelque part dans l'univers une forme de vie intelligente, elle doit certainement y jouer.
» Cool.
C'est quand même très chouette. Et allez, je vais finir avant qu'on termine cette première partie sur le fait que l'équilibre, il est également l'équilibre au Go. Il est symbolisé aussi par les couleurs des pierres, noires et blanches, qu'on peut rapprocher de la notion de yin-yang. Re-petit clin d'œil à notre émission sur les arts martiaux avec
bien
le karaté
sûr,
et le tai chi.
Hein,
le dessin du tai chi, c'est vraiment ce dessin-là de l'harmonie. Donc en fait, pour résumer vraiment grossièrement, ce sont les contraires qui font l'harmonie du monde. Et je trouve que c'est une belle façon de voir le jeu de Go.
Très bien.
Alors, sur ces belles paroles, on va faire une première pause musicale.
C'est parti. Vous écoutez Couleur du Monde sur Caladma Radio. Notre émission de ce mois est consacrée au jeu de Go et nous venons d'entendre, mais diantre, que venons-nous d'entendre? Je pense que Béranger va pouvoir nous renseigner.
Eh ben oui, tout à fait. Nous venons d'entendre une musique qui se nomme Introduction to Go, qui est une musique tirée de la bande originale du film Le Joueur de Go, qui est en salle actuellement.
Merci.
Les couleurs du monde.
C'est parti pour la deuxième partie, c'est le cas de le dire.
Tout à fait, cette deuxième partie sur l'impact culturel du jeu de Go en Asie. Et c'est Béranger qui va nous en parler.
Oui, tout à fait.
T'écoutons, Béranger.
Alors du coup, pour voir un petit peu l'histoire et l'impact du jeu de Go sur les cultures asiatiques, on va commencer au commencement, donc en Chine.
Mm-hmm.
Alors, comme est maladie, le jeu il est originaire de Chine et on y trouve les premières références écrites dans un livre qui se nomme « Annales des printemps et automnes ». Ce livre, grosso modo, il va décrire ce qui s'est passé dans les royaumes de Lou et de ses proches voisins, donc c'est dans l'ancien état de Chine, d'un point de vue politique, diplomatique et militaire, entre 722 et 481 avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment les premières traces écrites qu'on trouve du jeu.
D'accord.
Les premiers traités à proprement parler du Go vont dater de la fin de la dynastie Han, aux environs du début du 3e siècle après Jésus-Christ. Mmh. C'est à ce moment-là que le Go est ajouté aux trois arts sacrés chinois pour en faire les quatre arts du lettré.
D'accord.
Donc ces quatre arts, ce sont donc le Go, la calligraphie,
bien sûr,
la peinture,
d'accord,
et le Guqin. Le Guqin qui est un instrument chinois qui est un grand morceau de bois plat avec des cordes, un peu comme une espèce de guitare.
Ah oui, ok, je vois à peu près, oui.
Et donc ces quatre arts-là, c'est des arts que tout gentleman érudit chinois se doit de maîtriser.
Maîtriser, oui, bien sûr.
Voilà, au sein de la noblesse, c'est un apprentissage obligatoire et il n'est pas possible d'occuper un poste important ou un emploi de fonctionnaire sans les maîtriser totalement. Et ça va durer des années 200 jusqu'à la restauration de l'Empire par la dynastie des Sui en 589.
D'accord. Voilà.
Et donc déjà, à cette époque, le Go commence à être théorisé. Donc pas seul, tandis que c'est un art, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc, bien que les premiers traités datent du 3e siècle, le plus ancien qu'on a en notre possession, encore aujourd'hui, il date du 6e siècle. Il est disponible.
D'accord.
Il peut être vu à la British Library de Londres. Et c'est le... Alors, pardonnez mon chinois, du coup, Duang Qijing. Voilà, donc, c'est pas forcément...
Prononciation non garantie.
Ouais, c'est ça, c'est la prononciation. Hein. Je suis désolé s'il y a des Chinois qui nous écoutent.
On mettra dans le podcast, de toute façon. Hein,
on mettra la référence, bien sûr.
Pas de problème.
Et donc, ce traité, il est divisé en sept grandes sections. Je vous en parlais assez rapidement. La première section, elle va parler d'attaque et de défense. En conseillant aux joueurs d'imiter de grands stratèges militaires chinois.
Bien sûr.
Et donc, elle donne des grands principes sous forme de proverbes, tels que « la cupidité mène souvent à l'échec, la timidité mène rarement au succès ». Et ce proverbe, je vais m'arrêter un peu dessus. Parce que des proverbes dans le Go, c'est quelque chose qui est énormément présent. Petit peu comme une sagesse populaire qui se transmet. Il y a des proverbes pour tous les cas possibles et imaginables,
d'accord,
qui s'appliquent que dans certaines petites conditions
ouais,
et qui sont juste une fois sur deux.
C'est, ça
peut se rapprocher des proverbes ou de la sagesse populaire qu'on pouvait avoir chez nous, un petit peu comme les expressions de grand-père, Noël au balcon, pas cotisons. Ça marche pas tout le temps,
mais
ça donne une idée à peu près de ce qui est censé se passer et de comment les choses devraient se dérouler si tout se passe comme prévu.
Tout à fait.
Voilà, c'est vraiment à prendre comme ça les proverbes au jeu de Go. Et le proverbe qui est ici, c'est un bon exemple, parce que si on le regarde un peu, il dit il faut pas être cupide dans ses coups. Il faut comprendre, il faut pas être trop ambitieux, il faut pas trop en vouloir au risque de perdre. Par contre, il ne faut pas être trop timide non plus. Il ne faut pas juste garantir ses frontières sans chercher à négocier celle de l'autre, parce que sinon, on risque de ne pas gagner.
Une logique purement défensive et vous à l'échec, quelque part.
C'est ça.
Mais trop attaquer également. Si on veut tout le plateau, se casser les dents.
Le greed à l'américaine, ce n'est pas bon non plus. Salut Donald, on pense à lui.
C'est ça.
Bon, salut Donald.
Et du coup, dans une philosophie très asiatique, l'excès amène l'échec, le manque empêche le succès.
Trop yang, trop yin.
C'est ça.
Pas bon dans les deux cas.
Il faut un équilibre, être sur une ligne
exactement.
De crête entre attaque et défense. Donc ça, c'est déjà théorisé à ce moment-là.
Ouais.
Alors, la deuxième partie de ce traité, elle va expliquer une technique du jeu de Go qui est assez courante, qu'on appelle la capture en escalier des pierres. Donc c'est une technique qui est encore en place aujourd'hui.
D'accord.
On va enfermer plus ou moins les pierres de l'adversaire en laissant une seule sortie, et quand elle s'échappe, on va les rediriger jusqu'à ce qu'elle termine la tête dans le mur et par... au final, mourir. Donc
c'est
une technique de base.
C'est subtil.
Mais il y a des variations très complexes dans lesquelles même des joueurs très forts peuvent se faire avoir. Et il y a eu des parties qui se sont jouées là-dessus, même des parties de joueurs professionnels.
Waouh.
Voilà, donc ça, c'est déjà théorisé à cette époque-là aussi. La troisième section, elle va parler de l'agencement des pierres. Ce qu'on parle de forme au jeu de Go. Donc c'est-à-dire la manière dont les pierres vont être agencées sur le plateau, les groupements de pierres.
Ah oui, la forme globale que ça donne.
Voilà, et pas de tout le plateau, mais plutôt
de
petites parties de pierre.
D'accord.
Et du coup, ces formes, elles ont des forces et des faiblesses qui sont inhérentes.
D'accord.
Elles ont des manières d'être combinées entre elles pour être le plus efficace possible et pour pouvoir générer le plus d'influence sur le plateau et de pouvoir réclamer le plus grand territoire.
Je disais à Béranger, quand on préparait l'émission, que ça me faisait penser au tai chi.
Ouais, effectivement, ça parle de forme.
Voilà. Et ce qui est rigolo, du coup, c'est que ces formes aussi de pierre, elles sont nommées. Elles vont avoir des noms, parce que leur donner un nom, ça leur permet aussi de les noter, de les étudier.
Voilà, un bréviaire du joueur de Go, quoi.
Tout à fait, et puis après la partie, de pouvoir discuter avec un adversaire sur les mêmes termes, en parlant de forme. Parce qu'un joueur de Go va plutôt voir le plateau comme un ensemble de formes qui travaillent ensemble, que comme des pierres posées de manière unitaire.
Ok, voilà. Ah oui, c'est intéressant ça, en termes de perception.
Et du coup, les autres sections après de ce traité, bah, elles vont parler de l'étiquette hein, du go de l'époque. Mm-hmm. Donc ça, ça va être c'est une partie qui a, auquel on a perdu pas mal dans la traduction et où il y a des choses qui ne sont pas très bien comprises. Ça fait référence à des choses qui n'existent plus de nos jours ou qui n'existaient pas en Chine. Donc cette partie-là, elle est... voilà, ça va parler de bâtons pour compter, mais on ne sait pas ce qui compte avec des bâtons.
Ouais. D'accord, voilà,
mais
okay.
Il y a des choses comme ça. C'est, ça va aussi parler de l'importance de faire des schémas et de noter ces parties pour pouvoir étudier ces parties.
Oui, bien
et
sûr.
Et faire des schémas, des positions précises.
Oui, bien sûr, ce qui est logique.
Donc bah, c'est logique, mais c'est quand même... c'est quand même assez ancien et dans, ouais, dans ouais. l'histoire de se dire il faut noter pour avoir gardé des traces.
Voilà.
De,
donc garder la mémoire et travailler dessus pour améliorer tout ça,
exactement.
La performance.
Et, et le traité théorise du coup quatre grandes parties qui sont les parties de joueurs célèbres à noter.
D'accord.
Et trois parties de, qui sont un peu plus techniques sur des différentes techniques de Go qui sont pour les étudier précisément.
D'accord.
Et du coup, des parties célèbres dont fait référence ce livre, et il en subsiste encore quelques-unes de nos jours.
Wow.
On a notamment une partie entre Sun Tse, un seigneur de guerre et général, et un politicien et général, Liu Fan, qui se déroule aux environs de l'an 196. C'est la plus vieille partie de Go qu'on a à ce jour.
Mm-hmm. C'est assez incroyable de se dire qu'on a encore des traces de ça.
On a des traces de parties.
La mémoire de la civilisation chinoise est assez performante,
ouais,
c'est impressionnante.
Tout à fait. Et du coup, c'est aux environs encore toujours de cette même période-là, donc entre la dynastie Han et la restauration par les Sui, qu'il va y avoir le premier système de classement des joueurs de Go. Parce que, étant donné que c'est quelque chose qui est à maîtriser, il faut qu'on puisse classer les gens. Pour ça, pour qu'un fonctionnaire puisse progresser, il fallait qu'il soit bon au Go aussi, donc il faut qu'on soit capable de classer.
Mmh.
Et donc, ce classement, il se nomme, alors encore une fois, pardonnez mon chinois, mais c'est le classement des 9 Pin Shi. Qui est basé sur le système des 9 rangs utilisés en Chine à cette époque pour hiérarchiser les officiels de la cour impériale avec leurs différents rangs hiérarchiques et la solde qui est associée.
Ah ouais.
Donc le rang Go est basé là-dessus et il est défini comme suit. Il y a 9 niveaux dans le Go. Le premier niveau est divin, le deuxième niveau est transcendant, le troisième niveau est solide, le quatrième niveau est une connaissance profonde, le cinquième niveau fait usage de sagesse, le sixième niveau a des compétences certaines, le septième niveau sait se battre, le huitième niveau n'est pas doué et le neuvième niveau est réellement stupide.
Ok, donc là, ils inversent, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le neuvième niveau, c'est le niveau le plus bas.
C'est le niveau le plus bas, tout à fait.
D'accord. Oui, et là, on remonte jusqu'au premier, qui est le niveau divin.
Voilà, qui est le niveau divin.
D'accord.
Voilà, et on voit aussi que c'est assez lapidaire sur les niveaux les plus faibles. On maîtrise pas l'un des arts sacrés, on est stupide.
Tu commences au niveau stupide.
C'est ça.
C'est normal en même temps. Autant parler vrai.
C'est ça, voilà. Et ça, le réellement stupide, c'est une tradition de l'expression, c'est un idiome chinois qui est difficilement traduisible,
qui veut dire que la
personne ne vise pas haut, mais la seule chose dont elle a conscience, c'est qu'elle est tellement bête qu'elle ne peut pas viser plus haut. C'est à peu près ça l'idiome complet. Donc voilà,
c'est très chinois.
Voilà. Ouais, c'est vrai.
Voilà, ça permet de catégoriser. Donc cette échelle de niveau, même si elle est assez large et abstraite, bah, ça mérite de pouvoir quand même situer un petit peu le niveau d'un adversaire lorsqu'on connaît son niveau et que l'adversaire connaît à peu près son niveau, on sait à peu près la différence qu'il va y avoir entre nous.
Oui, bien sûr.
Donc on voit que même déjà assez tôt dans l'histoire, on se retrouve avec un jeu qui va être théorisé, qui a un grand impact sociétal sur la manière dont fonctionne la Chine. Et ce jeu, bah, après, c'est après à ces moments-là qu'il va s'exporter. Alors, en Corée du Sud, d'abord vers aux environs du 5e siècle, et dans la première moitié du 8e siècle au Japon. Alors, traditionnellement, on va le situer son arrivée en 735 au Japon par le biais de Kibino Asomi Makibi, qui est un noble japonais qui est étudié en Chine, mais on retrouve des traces dans la littérature chinoise à partir des années 701, notamment, avec un décret d'une impératrice, l'impératrice Jito, qui autorise l'aristocratie à jouer au jeu de Go. Et on va retrouver des documents aussi qui vont autoriser les moines bouddhistes, à qui on interdit la musique et les jeux de hasard, à jouer au jeu de Go. C'est
pas
considéré comme un jeu de hasard.
D'accord, donc ça va faire un sacré changement pour eux. Hein.
Oui, voilà, ça leur permet. Ils ont le droit. Et d'ailleurs, les moines joueront beaucoup au Go au Japon. Donc du coup, dans la période Nara, entre 710 et 794, et la période Heian, donc au Japon cette fois, on est passé.
D'accord.
De 794 à 1185, le jeu de Go était énormément pratiqué par l'aristocratie japonaise. Et ça, c'est attesté notamment dans des monuments de la littérature japonaise, tels que le Didu Genji ou les Notes de Chevet, qui sont les deux romans, on va dire, fondateurs de la littérature japonaise.
D'accord.
Donc qui parlent énormément de jeux de Go, qui sont sortis dans les années 990 à peu près pour les notes de chevet.
D'accord.
Mais c'est surtout dans la deuxième moitié du XVIe siècle, sur la fin de la période Sengoku, que le Go va vraiment entrer dans son âge d'or au Japon. Et ça, c'est notamment avec un personnage qui est particulier, assez connu de cette époque, c'est le seigneur de guerre et le premier fondateur du Japon, Oda Nobunaga, enfin réunificateur plutôt.
D'accord.
Donc à l'époque, le Japon, c'est un ensemble de petites provinces qui se font la guerre, et Oda Nobunaga va partir de sa petite province et conquérir à peu près tout le Japon.
D'accord.
Pour l'unifier.
C'est la première période d'unification, comme on connaît plein de pays en Europe.
C'est ça. Et du coup, Oda Nobunaga était, comme tout grand général, un bon joueur de Go.
D'accord.
Et à cette époque-là, il y avait aussi tous les généraux qui s'entraînaient au Go et qui avaient des professeurs particuliers de Go. Donc il y avait déjà des joueurs semi-professionnels qui étaient là pour enseigner le Go aux généraux.
D'accord.
Et c'était un moyen aussi pour les généraux de combattre de manière non frontale en envoyant leurs professeurs jouer au Go l'un contre l'autre. C'était un peu un genre de soft power.
Ouais, ok.
Et donc, du coup, cet Oda Nobunaga, il va prendre un moine qui était réputé un excellent joueur, le moine Nikai, en 1578, et il va l'inviter à faire une partie. Et lors de cette partie, Oda Nobunaga est tellement impressionné par le jeu du moine qui va déclarer Meijin, qui en japonais veut dire homme brillant.
D'accord.
Et ce à quoi il lui dira « Je te décerne le titre de Meijin, d'autres que toi l'auront, mais tu resteras jamais dans l'histoire le premier à l'avoir eu. » Et ce titre de Meijin, ça va être l'un des titres les plus prestigieux que les Japonais vont pouvoir avoir, qui sera donné uniquement à l'homme le plus brillant joueur de Go de son époque, avec des périodes de vacances dans l'obtention du titre, s'il n'y avait personne qui était au-dessus du lot. C'est-à-dire que s'il y avait trois grands joueurs, aucun n'était Meijin. Il ne peut y avoir qu'un seul homme brillant.
Ah ouais, ok, voilà, d'accord. Est-ce que ça a perduré, ça, ou pas?
Alors, ça a perduré pendant un bon moment. Ça a perduré pendant à peu près 200 à 300 ans.
D'accord.
Ça a perduré comme ça. Après, le titre a changé pour devenir un titre avec un tournoi. Mais
oui, d'accord.
Et du coup, c'est suite à cette partie-là que le moine va devenir l'instructeur particulier d'Oda Nobunaga et par la suite des deux autres grands unificateurs qui se passeront après la mort d'Oda Nobunaga. Et donc, ce moine, il va fonder la première grande maison du Go, aidé par justement les unificateurs.
Ça
va être la maison Oninbo. Et il va se renommer du coup Oninbo Sansa.
Ouais, c'est vraiment un nom très connu en fait dans le monde du Go.
La maison Oninbo, elle est vraiment très très connue. Ils ont théorisé beaucoup de choses, ceux qui ont mis il faut voir la maison Oninbo comme étant une maison dans laquelle des étudiants vont venir étudier le Go dans l'objectif de devenir les meilleurs possibles au Go.
D'accord.
Ouais,
juste une question, tu es donc vers le 16e, 17e siècle, qu'est-ce qui se passe en Chine? Ils continuent dans leur petit coin à faire leur jeu de Go, il n'y a pas de communication entre ces deux pays?
Alors non, à ce moment-là, en Chine, le jeu de Go avait un petit peu disparu.
Passé
l'âge d'or, c'est passé au Japon, et en Chine, il y a une période où on n'entend plus tellement parler, à partir du moment où c'est plus dans les arts sacrés chinois.
Ah ouais.
Voilà, je crois
c'est
que ça
étonnant.
Va être. Alors je sais plus exactement à partir de quand, mais ça doit être peut-être à partir du 12e, ça perd en platé, c'est plus dans les arts sacrés. Et...
D'où le transfert au Japon si on veut suivre l'histoire du jeu de Go.
Tout à fait, oui, c'est là, c'est the place to be le Japon pour le Go à ce moment-là.
D'accord.
Voilà, à peu près.
D'accord.
Et donc du coup, j'ai perdu.
Cette fameuse école Oninbo, donc qui forme des étudiants au jeu de Go.
Tout à fait.
Machine à champion.
C'est ça. Et du coup, il va y avoir aussi ce moine qui a fondé l'école Oninbo en 1603, donc sous le shogunat du troisième unificateur, donc Tokugawa Ieyasu, il va obtenir le poste de Go Dokoro.
D'accord.
Go Dokoro, qui signifie ministre du Go.
Ah ouais.
Donc voilà, il a son ministère.
C'est dire l'importance du coup.
Il a du personnel, il a une solde et il a la charge d'organiser le fonctionnement professionnel du Go dans le Japon.
Waouh.
Voilà. Donc
ça veut dire l'importance absolument colossale de ce jeu dans la culture japonaise à cette époque.
Exactement.
C'est l'ancêtre des fédérations de Go en fait.
On peut presque voir ça comme ça. C'est surtout un ministre du Go et il ne va pas y avoir une fédération, mais par contre il va avoir la naissance de trois autres maisons qui vont être aussi sponsorisées entre guillemets par l'État pour prendre trois autres joueurs brillants de l'époque qui auront chacun leur maison. Donc pour avoir la maison Hayashi, la maison Inoue et la maison Yasui.
D'accord.
Et ces quatre grandes maisons, elles vont s'affronter pendant des siècles pour déterminer qui est la plus prestigieuse, qui a les meilleurs joueurs, et pour obtenir le poste de Go Dokoro, le titre de Meijin, mais aussi des postes de haut fonctionnaire. Donc il y a tout un enjeu de puissance entre ces quatre maisons
pouvoir,
qui vont être là.
C'est ça.
Et du coup, il y a un tel enjeu de pouvoir dessus qu'il y avait un tournoi qui avait lieu de manière annuelle, l'Oshirogo, donc on peut traduire par partie du château, qui se jouait au château d'Edo.
D'accord.
Donc en présence des meilleurs joueurs de chaque maison et du shogun.
D'accord.
Donc voilà, c'était vraiment. Et c'était très ritualisé. Il y a tout un tas de cérémonies autour. Alors c'est à cette période-là également qu'il va y avoir un système de classement un peu plus précis des joueurs de Go qui va arriver. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui était très clair. Et donc, dans ces eaux-là, un autre grand maître de la maison Oninbo, donc Oninbo Dosaku, qui fut lui aussi également Meijin et qui était même tellement fort par rapport à ses contemporains qu'il a eu droit à un nouveau titre, hein, le titre de Kisei, qui signifie Saint d'Hugo.
D'accord, donc voilà, ils ont inventé un titre supplémentaire au-dessus de Meijin.
Tout à fait. La légende raconte qu'il était tellement fort qu'il n'y a jamais eu aucun adversaire qui était de taille à tester sa véritable compétence.
Waouh, d'accord.
Voilà, il y a une partie de légende autour, mais...
Mm-hmm, ok. Très bien.
Et donc, il va mettre en place un système à 9 rangs pour les maîtres, donc basé un petit peu sur le système chinois, mm-hmm. et un système avec des autres rangs pour les élèves. Donc, les rangs pour les élèves, c'est ce qu'on va appeler des Q. Et lorsque la formation est terminée, que la compréhension de l'élève est suffisante, il obtient son premier rang de maître.
D'accord.
Son premier rang de maître, c'est ce qu'on va appeler un dan.
Ah, tiens.
Un dan, eh oui.
Ça te rappelle des termes
comme dans les arts martiaux,
tout à fait, bien sûr.
Et alors, c'est plutôt l'inverse, les arts martiaux qui sont comme dans le Go, puisque c'est au jeu de Go que les arts martiaux.
Ils se sont inspirés du Go, bien sûr, historiquement, c'est logique.
Et que les ceintures, du coup, sont aussi inspirées des Q.
Voilà,
et sont
d'accord.
là pour représenter ça.
Alors, c'est, okay,
les couleurs
super,
des ceintures sont représentation graphique des Q.
D'accord.
Et du coup, de cet âge d'or du Go.
Ok, très bien.
D'accord. Et du coup, de cet âge d'or du Go qui est du Japon, nous est parvenu une multitude de parties de grands maîtres qui sont encore étudiées aujourd'hui dans le monde.
Cette fois-ci, on a sans doute une mémoire plus importante de tout un tas de parties, je présume.
On a à peu près toutes les parties des grands maîtres qui ont pu être là. Et notamment, il y en a une qui est assez célèbre, qui est encore étudiée beaucoup, c'est la partie qui fait rougir les oreilles. Donc, qui aura lieu entre Genan Inseki, un grand maître de la maison Inoue, et Oninbo Sushaku, un jeune prodige de 17 ans à l'époque,
d'accord.
qui lui aussi obtiendra le titre de Kisei,
ouais.
Qui du coup avait commencé la partie en faisant donc, contre un grand maître qui a une soixantaine d'années d'une maison et qui lui c'était le petit disciple qui était là.
Ouais.
Il a fait une erreur en début de partie, donc au Fuseki, ce qu'on appelle le début de partie au jeu de Go, où on va chercher à se mettre en place, à avoir des territoires. Mm-hmm. Il a fait une erreur qui lui valait d'être en retard. Et là, tous les gens qui assistent à cette partie se sont dit...
C'est mort.
C'est mort, c'est fini. Mmh. Jusqu'à ce qu'il sorte un coup que personne n'avait vu venir pendant le Chuban, la phase des combats, la deuxième phase du jeu de Go.
D'accord.
Un coup qui non seulement résolvait ses problèmes, mais lui permettait aussi d'agrandir son territoire et d'attaquer potentiellement le territoire adverse.
Coup de génie absolu, alors.
C'est un coup de génie absolu. Et donc, à ce moment-là, les oreilles du vieux maître sont devenues rouges.
Parce qu'il a été,
il a été surpris et énervé.
D'accord.
Et dans sa détermination de ne pas vouloir perdre la face contre un jeune, il a continué la partie jusqu'au bout pour finalement la perdre de 2 points quand même.
Wow.
Donc, il l'a perdu au Yose, donc la phase de fin de partie où on va fermer tous les territoires et compter la partie.
D'accord. Partie historique, donc.
Partie mm-hmm. historique, oui. Et du coup, voilà. Après, l'âge d'or, à un moment donné, il a pris fin.
Mmh.
Et il a pris fin avec l'arrivée de l'ère Meiji en 1868, quand le Japon entrait dans l'ère industrielle.
Ouais,
et du coup, tous les codes féodaux du Japon ont commencé à péricliter un petit peu, les mécènes ont disparu et tout le système mis en place s'est terminé avec la fin des maisons.
La fin de la grande époque du jeu de Go, donc. C'est avec l'ère Meiji.
Avec l'ère Meiji, ouais, c'est la fin des grandes maisons et c'est le début de la fédération japonaise quelques années plus tard après. Des années de marasme et de disparition.
D'accord. Ouais.
En 1924, la Nihon Kiin qui a réussi à remettre en place le jeu de Go mm-hmm. avec énormément de publicité dans les journaux notamment.
Ok.
D'accord, voilà. Très bien.
Et ça, ça nous a amené sur l'ère actuelle du coup du jeu de Go.
Et avant ça, nous allons faire une deuxième pause musicale.
Voilà, c'est parti.
Thank you.
auditeurs et auditrices de Kaladma Radio. Vous êtes toujours sur votre émission préférée, Les Couleurs du Monde, et nous parlons du jeu de Go en compagnie de Patrick et Béranger. Et donc, la musique qu'on vient d'entendre, c'est Violin Tsunami, et c'est une musique que j'ai choisie parce que juste, je la trouve chouette et que je la trouve bien adaptée pour jouer au Go comme fond musical.
Kalad. Les Couleurs du Monde.
Et on arrive sur notre troisième partie, à savoir le jeu de Go en Europe. Alors, j'avais déjà évoqué le fait que le jeu de Go, il avait été introduit en Europe dans les années 1880. Mais à cette époque-là, il était vraiment réservé à une toute petite partie, à une élite très très peu répandue. On va ici surtout évoquer l'évolution en France. Et pour ça, je m'appuie sur un article du Monde qui date de juin 1998, que je mettrai aussi en lien sous le podcast. Alors ce jeu, il s'est développé en effet en France, vraiment ça a pris vers la fin des années 80, grâce à la rencontre de deux groupes, entre guillemets, de joueurs. Je m'explique. Tout d'abord, un mathématicien qui s'appelle Claude Chevalet et qui revient d'un voyage au Japon totalement passionné par le jeu de Go. Sauf qu'évidemment, il trouve personne pour jouer avec lui. Du coup, il va inviter des gens à jouer des parties chez lui. Et devinez, alors là, Patrick, attention, qui est-ce qui va aller jouer des parties chez lui? Eh bien, Jacques Roubaud et Georges Perec, des écrivains quand même très connus.
Georges Perec, oui.
Des écrivains, c'est des écrivains de Loulipo, mouvement, dernier mouvement littéraire encore existant.
Sur la liste, un petit peu Loulipo, je ne dis pas de bêtises.
C'est pas tout à fait pareil. Mais alors, si je ne vais pas vous faire un cours de littérature maintenant, mais il y a le jeu sur le langage qu'on retrouve, bien sûr. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien complètement. Ils deviennent donc des habitués et ils vont commencer à faire des initiations dans les cafés parisiens, des initiations au Go. Et en parallèle, nous avons un homme qu'on appelle Maître Lim, qui est un Coréen, qui est un très bon joueur de Go, qui vient s'installer en France. Et voilà qu'il passe devant un de ses cafés un jour et il voit ces écrivains qui jouent plutôt mal. Et il y a ces écrivains, ils sont avec des étudiants de Normale Sup et de Polytechnique qu'ils ont un petit peu entraînés là-dedans. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Maître Lim, il arrive et il leur dit « Bon, ok, vous jouez assez mal. Moi, je ne parle pas hyper bien français. Je vous échange des cours de français pour moi contre des cours de Go pour vous. » Et ça va vraiment commencer à faire connaître le Go à un public parisien plus large à ce moment-là. C'est vraiment cette rencontre de ces deux branches. L'autre grande référence qui va vraiment, vraiment faire développer le jeu de Go en France, c'est le manga Hikaru no Go de Yumi Ota, avec des dessins de Takeshi Obata. Donc c'est un manga qui est sorti en 99 au Japon et en 2002 en France. C'est un manga qui va aussi être mis sous forme d'animé, traduit en français. Je vous raconte l'histoire très rapidement parce que moi je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, donc c'est un tout petit aperçu. C'est l'histoire de Hikaru, qui est un jeune garçon de 11 ans, qui n'est pas un garçon très sérieux. Et en fouillant dans le grenier de son grand-père, il tombe sur un goban qui est hanté par l'esprit de Sai. Sai, c'est un très ancien joueur de Go de l'époque de Heian, donc de 794 à 1185. Et il dit qu'il a été le maître de Shusaku, donc, dont tu as parlé, qui est considéré par les encore aujourd'hui par les Japonais comme le plus grand joueur de Go de l'histoire. Et ce fantôme, il va s'installer dans l'esprit de Hikaru et le pousser à jouer au Go.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors, en tout, il y a 23 tomes, pas mal de rebondissements. Sur le tome 1, moi, ce que j'ai trouvé vraiment d'intéressant, c'est que Sai, il se rend compte que la manière de jouer a changé entre son époque et maintenant. Et il trouve, par exemple, que c'est incroyable de jouer Oshi, donc c'est quatrième ligne sur quatrième ligne, l'intersection dans le coin 4 lignes par 4 lignes.
Je te fais confiance, je te crois sur parole.
Lors du Fuseki, c'est là quand on installe ses pierres. Et donc, à son époque, ça ne se faisait pas comme ça. Donc ça rend vraiment compte du fait qu'il y a eu une évolution du jeu au fil des siècles. Une évolution qui a aussi vraiment... les IA aussi ont vraiment... très dernièrement, ont aussi contribué à faire évoluer le jeu.
D'accord.
Oui, voilà.
Tu parles des intelligences artificielles.
Et si tu veux peut-être en dire deux mots.
Oui, tout à fait. Je vais en dire deux mots.
Petite parenthèse.
Oui, petite parenthèse.
Sur les intelligences artificielles, là où sur les échecs, l'intelligence artificielle a surpassé l'humain depuis la fin des années 90, 96-97. Ça a été un défi pour les développeurs d'intelligence artificielle, le jeu de Go, pendant très longtemps. C'est qu'en 2016 qu'on a réussi à battre les meilleurs joueurs mondiaux.
Ah oui, donc presque 20 ans d'écart.
Et pour battre ça, il a fallu inventer un nouveau système d'intelligence artificielle, un système dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est les réseaux neuronaux.
D'accord.
Donc, grâce au jeu de Go, l'intelligence artificielle a grandement progressé, en fait.
C'est pour casser le jeu de Go que les réseaux neuronaux ont été mis en place, oui, à peu près.
C'est quand même incroyable.
Et donc, vous dites que les IA ont transformé quand même, ont permis l'évolution du jeu de Go, une certaine évolution.
De changer quelques jeux équipes, par exemple.
Elles ont changé quelques séquences établies qui étaient connues en amenant des réfutations qui n'ont pas été trouvées, mais dans l'ensemble, les intelligences artificielles ont rattrapé les quelques millénaires d'histoire humaine de jeux de Go et sont tombées à peu près d'accord sur la manière dont jouaient les humains. En laissant une IA apprendre toute seule à jouer au jeu de Go avec juste les règles, elle tombe à peu près sur ce que fait un humain, avec quelques améliorations, une meilleure puissance de lecture et de prévision qu'un humain. Mais tous les grands principes humains n'ont pas vraiment été remis en cause par l'intelligence artificielle. Il y a eu 2-3 changements, mais dans l'ensemble...
Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste vous nommer quelques romans qui parlent du Go. Il y a La joueuse de Go, de Shansha. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez vous-même. Je dis juste une petite citation qui me plaît bien dans ce roman que je suis en train de lire. Elle dit « Le bonheur est un combat d'encerclement, un jeu de Go. Je tuerai la douleur en l'étreignant. » Voilà, je vous dis juste ça. Et puis, il y a un autre roman qui s'appelle « Le maître ou le tournoi de Go ». Le titre japonais, c'est « Meijin ». Voilà, qui met en scène une très grande partie du dernier Onimbo. Et également « Itinéraire d'un maître de Go », qui est basé sur la vie de Cho Shikun, qui est un grand, grand joueur japonais. Et puis, bien sûr, la toute dernière référence, c'est « L'univers est avec nous », parce que le calendrier a fait que le film « Le joueur de Go » est sorti là et que nous avions prévu cette émission depuis juin sans le savoir. Moi, je dis, voilà, allez voir ce film qui est vraiment, vraiment incroyable. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait.
Mais juste rapidement, en Europe, il y a des championnats, des compétitions Go, etc. Est-ce qu'il y a des compétitions internationales? Est-ce qu'ils se frottent aux Japonais?
Alors, oui, bien sûr, on se fait frotter par les Japonais. Ouais. On va être assez clair là-dessus. Mais oui, il y a une fédération européenne, une fédération française également, qui est fédérée dans un ensemble de ligues et de clubs un peu partout en France. Donc il y a notamment un club de Go à Lyon. Il y en a un autre, c'est un très gros club de Go à Grenoble. Il n'y a pas de club à Villefranche.
D'accord.
Je suis désolé, mais voilà.
Donc, c'est mais on va faire une initiation de ces quatre.
Mais on pourra faire une initiation ludique. C'est tout à fait possible.
Oui. Ouais, d'accord.
Donc voilà, avec des tournois qui sont organisés dans chacune des villes de France. D'ailleurs, bah là, fin avril, il y a le tournoi de Paris qui va avoir lieu. Il y a un tournoi qui va être vers Grenoble pour le mois de mai. Donc voilà, il y a des tournois très régulièrement.
Il y a un tournoi à Lyon.
Voilà. Ça dure combien de temps une partie de Go?
Alors,
parce que qui dit tournoi dit structuration, ça ne peut pas durer toute la nuit?
Alors ça ne peut pas durer toute la nuit. Effectivement, une partie de Go, ça va dépendre des tournois, mais dans l'ensemble, il faut compter pour les parties actuelles entre une heure et demie par joueur pour des parties jusqu'à un maximum de 3 heures, grosso modo, pour des amateurs. Pour des joueurs professionnels, dans des parties de titre au Japon, il peut y avoir des parties qui s'étalent sur 2 jours.
Ouais, d'accord.
Et à savoir, petite anecdote, que le fait de cadencer les parties et de mettre du temps, c'est arrivé en même temps que la Nihon Ki-in au Japon, puisqu'ils se sont rendus compte que pour faire de la pub dans les journaux, c'est bien si les parties ne duraient pas 3 mois.
bien sûr, tout à fait.
Alors, on va passer à notre quatrième partie, avec l'interview du pédagogue que nous connaissons avec Béranger, Isoka, ou Christopher, de son vrai nom.
Mais d'abord une petite virgule.
Galade.
Les couleurs du monde.
Salut Christopher, merci beaucoup d'accepter de participer à cette émission sur le jeu de Go. Du coup, déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Christopher et je suis prof de Go, donc pédagogue, professeur. J'enseigne le jeu de Go depuis 2018.
Et
ça fait un moment, ça commence à faire un moment. Et j'ai aussi créé une chaîne YouTube qui parle de Go, qui vulgarise le jeu de Go pour le rendre accessible à tout le monde. Alors elle s'appelle Fulguro Go. Et elle a maintenant, elle a passé sa 10e année.
Ok, super, très bien. Et du coup, tu peux expliquer un petit peu à nos auditrices et nos auditeurs en quoi ça consiste le métier de pédagogue de Go?
Alors, c'est un peu... c'est un métier qui n'existe pas vraiment en réalité. On va dire qu'il est tout nouveau. Moi, ce que je fais, c'est donner des cours. Donc, je donne des cours en ligne à des gens qui veulent progresser, revoir leurs parties... leur enseigner des notions théoriques, leur jouer avec eux. Donc ça, je fais aussi des stages. Je participe à des stages en tant que pédagogue, comme D'accord. le stage français, comme des stages un peu partout en vrai, des différents tournois.
Tu peux expliquer un peu ce que c'est qu'un stage
C'est comme un séminaire. Tu as donc des stagiaires qui sont là, qui sont en attente de connaissances. Et du coup, on est seul ou plusieurs pédagogues à donner ces informations. Donc, par exemple, sur le stage français, par exemple, qui a lieu généralement l'été. Oui. Ça dure 2 semaines. On peut en participer à 1 semaine. C'est d'ailleurs le prochain stage auquel je participerai. Ce sera cet été. Et le matin, par exemple, il y a des ateliers où on est en petits groupes. Chaque pédagogue a un petit groupe. On explique une notion. Ensuite,
une notion
durant...
sur le jeu de Go, par exemple, sur un coup ou
voilà.
une forme.
Un coup, une situation, chose. Une position. Ouais. Parce que le jeu de Go, c'est quand même quelque chose d'assez profond. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire dessus. Oui. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à travailler, donc c'est intéressant. Continuer, donc le stage, voilà, c'est toute la journée. Il y a des activités qui font qu'on travaille le Go. C'est un peu intense, quoi. C'est un peu vouloir du D'accord. Go toute la journée.
C'est-à-dire que tu as des cours théoriques le matin et après tu joues des parties. Et toi, quand les gens ils jouent des parties, tu fais des commentaires, c'est ça?
C'est ça. Ils jouent une partie, donc de manière générale dans le stage par exemple, donc le matin comme tu l'as dit c'est théorique, et début d'après-midi après le manger ils vont jouer une partie un peu sérieuse, et du coup nous on commente les parties après avoir, dès qu'ils ont joué, et on fait d'autres activités aussi, des petits jeux parfois qui sont des variantes du Go, mais très sympa. D'accord. Et ça dure pendant 2 semaines, voire 1 à 2 semaines, on n'est pas obligé de faire les 2 semaines.
D'accord, très bien. Et tu as dit aussi que tu faisais tu interviens parfois sur des tournois, c'est ça? Tu peux expliquer pour exact. Nos auditrices et nos auditeurs ce que tu fais dans ces moments-là?
Exact. Donc je suis généralement invité par les organisateurs des tournois ce que j'y fais, c'est je commande des parties. Donc les tournois, c'est environ 4 à 5 parties sur le week-end, donc 3 parties le samedi, 2 parties le dimanche par exemple, et dès qu'ils ont fini de jouer leur partie, moi je suis là pour commenter pas toutes les parties parce que c'est impossible quand ils sont, quand ils sont 50 ou 60 participants, donc c'est impossible, mais en tout cas les gens qui viennent pour un commentaire, ça dure un petit moment parce qu'il faut bien que je partage le temps, et durant toute la session ou avant qu'ils commencent leur partie suivante, je leur commente leur partie, et les gens qui ont terminé peuvent venir écouter aussi, donc c'est souvent ils sont assez intéressés d'avoir des commentaires de partie d'ailleurs. Ils n'ont pas forcément l'occasion tout le temps. Là, c'est récent que ça se fait un peu plus, donc c'est plutôt cool.
D'accord.
Et voilà.
Très
donc
bien.
Ça, c'est un peu ce que je fais. Je fais aussi un peu de pédagogie en club, quand il y a
son
club, par exemple, à Bruxelles. Aussi.
D'accord. Tu vas aussi et tu expliques, tu interviens sur des joueurs moins forts pour les aider à progresser.
C'est ça.
Ok. Et ça fait combien de temps, toi, que tu joues au Go?
Alors, ça fait 23 ans, là. Donc, j'ai commencé en 2002.
D'accord. Très bien. Ah, c'est l'année où j'ai
joué. J'ai commencé en 2002 avec la série Ikaru no Go.
D'accord. Ouais.
Je crois que le manga, il sortait en 2000-2002. Et il y avait la traduction des mangas qui se faisait la nuit. Hein. Dès que tu avais un chapitre qui sortait au Japon, tu avais... directement la traduction qui se faisait par les fans, et donc du coup
c'est trop fou, et donc ça sortait en France genre un ou deux jours plus tard,
ça sortait sur internet
et
douteuse tu pouvais les lire.
Ok, ça marche. On mettra un petit lien aussi vers ce manga Ikaru no Go sous le podcast, on mettra un lien, ça peut donner aussi envie à des personnes d'aller le lire et de d'en apprendre un peu plus. Et du coup, donc, alors, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer, mais du coup, je crois que t'as un peu pré-répondu.
Tu connaissais le Go avant
Ikaru no Go ?
Pas du tout. Bah, justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que je connaissais pas du tout le Go, je savais même pas que ça existait, et en fait, quand je l'ai découvert, j'ai accroché direct, et puis je suis allé jouer sur Internet parce que c'était mon moyen le plus simple. Il y a des clubs qui existent, mais... J'y suis allé un peu plus tard, quoi.
D'accord, ok. Et du coup, pour accrocher au go, enfin, faut être un petit peu fort aux échecs ou jouer à ce genre de jeu ou pas du tout? C'est quelque chose auquel tu jouais toi auparavant?
Alors, de manière générale, c'est au go que je me suis rendu compte que j'aimais bien réfléchir. Mais avant ça, les échecs m'ont jamais attiré. Je crois que j'avais joué 2-3 parties et je connaissais les règles des échecs, mais j'avais pas vraiment joué. Ce n'est que plus tard, dans mon enseignement du go, que je me suis penché un peu sur les échecs pour jouer un petit peu et voir comment ça se passait, quels étaient les principes et tout ça, mais j'ai pas continué.
D'accord.
Mais sinon, non, je n'ai pas vraiment joué. Avant le go, je n'ai pas vraiment joué à d'autres jeux de réflexion, sauf dans certains jeux de société, quoi. Mais...
D'accord, ok. Alors, une question un peu plus perso, mais tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir de go?
Alors, là, il y en a des récents, parce que... Alors, je vais te dire deux choses. Là, pour l'instant, il y en a des récents, parce que je m'en fais plein, parce que quand je vais en tournoi, ben, je rencontre plein de gens aussi, et ils sont tous très gentils et tout ça, et ça, c'est vraiment des bons moments que j'ai de plus en plus, donc c'est vraiment cool. Et sinon, il y a un moment qui me marque et qui parle beaucoup du go, je trouve, c'est un moment que j'ai eu à Antony quand je faisais un tournoi. La partie va commencer, je suis assis déjà sur la place pour jouer ma partie, et mon adversaire arrive, il avait la tête sérieuse, poker face, et on commence la partie, je fais une grosse boulette, la partie se termine, et pendant toute la partie, on était à fond dedans, sérieux, pas un sourire, rien du tout, et la partie se termine, et... Bon, je finis par gagner cette partie, mais de très très peu, c'était très très juste. Et je vois le sourire sur le visage de mon adversaire. Genre, il était poker face pendant toute la game, et tout à coup après, il a le sourire et on parle, c'est hyper agréable, hyper amusant.
Ah, super.
Et c'est trop cool. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose de fort dans le go, c'est le partage après la partie. Déjà, il y a un partage pendant la partie qui n'est pas du tout nocif, qui est très agréable, un peu stressant, mais c'est un stress positif.
Ouais.
Et après la partie, il y a toute la joie, le stress qui du coup descend et c'est comme un soulagement et du coup il y a l'amusement de parler de la partie. Alors ça se fait pas forcément tout le temps, mais très souvent on parle de la partie et c'est agréable quoi. Et ça, je trouve dans le go, c'est quelque chose qui est fort, c'est la mentalité des gens dans le go, il m'a l'air quand même assez positif.
Ouais, et de partage et enfin il y a beaucoup de bienveillance. Même en tournoi, quand tu es débutant, parce que c'est mon cas. Et ce que tu dis sur la mentalité, ça va rejoindre aussi ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission sur le fait que l'esprit du go, c'est qu'on ne va pas tout avoir sur le goban et que on est obligé de partager un morceau. Donc oui, le but, c'est d'avoir un plus gros morceau, mais c'est quand même un partage et ça, c'est vraiment... caractéristique d'un état d'esprit qu'on retrouve pas dans d'autres jeux, puisque dans la première partie je faisais le parallèle avec les échecs, et du coup cette bienveillance on la retrouve parce qu'elle est aussi inhérente au jeu, en fait, au fait que c'est un jeu de partage en premier lieu.
Exact en fait, comme tu l'as dit, le go, en fait, on doit comprendre qu'on doit juste on ne peut pas annihiler l'adversaire. On ne peut pas le désintégrer du plateau. C'est-à-dire qu'on doit apprendre juste à vivre en cohabitation avec lui.
Exactement.
Et à négocier ce plateau, quoi. C'est tout.
C'est ça. Ouais. Et c'est un bel esprit, je trouvais. Et on le retrouve dans l'esprit des joueurs de go, en effet, et des joueuses de go, je suis d'accord.
Tout à fait. Et si je peux rajouter une dernière chose, c'est que moi, le jeu de go, pourquoi je m'y suis aussi accroché, c'est Hikaru no Go, évidemment, une première fois, mais pourquoi j'y suis resté encore plus longtemps, c'est que... Pour moi, le go, c'est quelque chose de très simple. C'est des pierres blanches et des pierres noires, donc on ne peut pas faire plus simple que ça sur un plateau. Mais le moment où on va jouer un coup, donc le moment où on va le jouer et l'endroit où on va le jouer, va donner une intention complètement différente. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer sur un plateau pendant tout le long de la partie, et c'est ça qui rend sa complexité. Donc, c'est un jeu très simple visuellement, mais qui évidemment a une complexité profonde, mais qui est accessible à tout le monde, quoi.
Ouais, tout à fait. Bon.
Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Christopher, d'avoir partagé ça avec nous. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais du coup, il faut peut-être le dire quand même sur ta chaîne Fulgurogo, c'est Isoka, ton pseudo. Si les gens cherchent Christopher, il faut qu'ils trouvent le bon. De toute façon, on mettra tous les liens que tu nous donnes, on les mettra sous le podcast. Et donc, voilà, merci beaucoup vraiment d'avoir participé à cette émission et à bientôt. Bye bye.
Un plaisir pour moi.
Galade.
Les couleurs du monde.
Nous arrivons au terme de cette émission, couleurs du monde de ce mois de mai qui était consacré aux jeux de Go. Emma, une petite conclusion ?
Eh bien oui, d'abord, j'espère que ça vous aura donné envie un petit peu de vous intéresser à ce jeu. Et si justement vous avez envie de vous renseigner, n'hésitez pas à aller justement sur le Discord et la chaîne YouTube d'Isoka qui s'appelle donc Fulgurogo, où il y a un petit peu toutes les bases de comment on apprend à jouer à ce jeu. Et bien sûr, voilà, on mettra tout ça dans le podcast. Et sur le Discord, on y est, nous. Donc voilà, n'hésitez pas.
Béranger, merci de nous avoir amené tes lumières concernant ce jeu asiatique absolument passionnant.
Avec grand plaisir.
Auditeur de Calade, Dame Maradio, à la prochaine émission.
Calade, les couleurs du monde.
Histoire,
pensée,
culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.